France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, coup de projecteur sur les lents, les bordéliques, les maladroits, les rêveurs, les nonchalants. Coup de projecteur sur les héritiers de Gaston Lagaffe, du professeur Tournesol, d'Alexandre le Bienheureux, du grand blond avec une chaussure noire, des grains de sable dans la grande machinerie sociale. Alors comment faire de tous ces petits défauts qui peuvent exaspérer les autres une force dans sa vie quotidienne? Et vous, dites-nous hein, comment vous vivez le fait d'être lent, maladroit, bordélique, et surtout comment est-ce vécu par votre entourage? Et racontez-nous également si vous ne supportez pas les lenteurs et autres maladresses de vos proches ou d'inconnus croisés au cours de la journée. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Hey Flash, j'aimerais te présenter mon ami.
Que
accroche-toi.
Puis-je faire...
Eh bien, j'espérais que vous puissiez...
Pour vous.
Eh bien, j'espérais que...
Aujourd'hui.
Eh bien, j'espérais que vous puissiez identifier une plaque pour nous et on est vraiment super pressés.
Oui. Quel est le numéro...
29-T...
De la plaque.
29-THD-03.
2... 9...
THD-03.
T...
HD03.
HD03. D.
03.
0.
Le personnage génial de Flash, un personnage très 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 lent dans le dessin animé Zootopie. Bonjour Héloïse Lérété.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la rédaction de l'indispensable mensuel Sciences Humaines avec à la une un dossier intitulé « L'élan, les bordéliques, les rêveurs, la résistance discrète des inadaptés ». Bonjour Christophe André, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chroniqueur dans Grand Bien vous fasse et l'auteur d'Imparfaits, libres et heureux en poche chez Odile Jacob. Bonjour Laurent Vidal.
Bonjour.
Vous êtes historien, enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle et vous avez publié chez Flammarion Les hommes lents résister à la modernité, 15e, 20e siècle. Et c'est disponible en poche chez Champ et vous intervenez dans le Sciences Humaines. Bonjour Sylvie Chocron.
Bonjour Ali.
Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et vous avez publié aux presses du Châtelet, aux presses de la Cité, Dans le cerveau 2. Alors, Héloïse Lérété, première maladresse, vous avez vu Sylvie Chocron, hein ça promet pour le reste de l'émission.
On est dans le thème.
On est totalement dans le thème, j'ai fait exprès en fait, Sylvie Chocron. Héloïse Lérété, comment pourrait-on les appeler ces lents, ces bordéliques, ces nonchalants, ces rêveurs, ces maladroits qui nous entourent ou que nous sommes nous-mêmes? Ce sont quoi, des grains de sable dans la grande machinerie sociale?
Alors, ce sont des grains de sable et en même temps, ce qu'on a voulu faire avec ce numéro, c'est d'abord tirer la sonnette d'alarme en rappelant que la lenteur, la maladresse, la rêverie font partie du fonctionnement normal de l'être humain. Or, ce sont souvent vus comme des défauts, donc renvoyés à la sphère morale avec une forme de condamnation, voire de disqualification, ou de plus en plus à la sphère du handicap, c'est-à-dire qu'un maladroit, c'est forcément un dyspraxique, un rêveur, un trouble de l'attention, et quelquefois avec beaucoup de surdiagnostics, d'autodiagnostics qui sont erronés et qui réduisent tristement la sphère de la normalité.
Votre regard, Christophe André?
Oui, bah je peux juste compléter ce qui a été dit et parfait. C'est vrai qu'un défaut, c'est l'absence de quelque chose qu'on devrait avoir, mais qu'on devrait avoir selon nous, selon les autres. C'est-à-dire le défaut renvoie à des normes. Et moi, en écoutant la petite séquence là de début d'émission, avec le personnage très lent qui agace l'autre,
dans Zootopie,
je me demandais. Qui a un défaut? Est-ce que c'est le lent ou est-ce que c'est l'impatiente, finalement? Donc, tout ça va nous amener sans doute à parler de ce qu'on peut considérer comme étant une nature humaine, entre guillemets, normale.
Sylvie Chocron.
Oui, alors moi je vais compléter ce qu'Héloïse a dit et ce que Christophe a dit. D'abord, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a des lents, qu'il y a des paresseux, qu'il y a des rêveurs. Je pense que la normalité, c'est qu'on puisse être tout ça à la fois et de manière variée, avec des moments où on va être au contraire très rapide, très efficace, très adroit. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas étiqueter les gens avec l'un de ces qualificatifs-là. Et alors, je vais vous donner un exemple qui va tous vous parler. Nous, qui habitons Paris, quand on part l'été en vacances pour une certaine durée dans un autre endroit de la France, les premiers jours, on se retrouve à faire les courses en passant à toute allure les produits sur le tapis de la caissière. Et là, on voit les gens qui nous regardent et qui se disent « Tiens, ça y est, les Parisiens arrivent en vacances ». Et on se rend compte que les gens ne sont pas du tout au même rythme, qui prennent le temps, qui discutent, qui se demandent comment ils vont, etc. Qui ne s'inquiètent pas du tout pour les gens qui pourraient prendre un peu de temps en déposant leurs courses sur le tapis. Et là, on se dit qu'effectivement, on a une forme de conditionnement et que soi-même, ça va nous prendre un certain temps avant de ralentir le rythme et qu'on va apprécier ce ralentissement. C'est ce qu'on cherche, d'ailleurs, quand on quitte les grandes métropoles, c'est à changer de rythme. Et donc, chacun peut tout à la fois avoir des moments où il est lent et avoir des moments où il est extrêmement rapide.
Laurent Vidal, on va s'intéresser notamment à la lenteur ce matin. Qu'est-ce qu'un homme, une femme lente ? Quand on dit de quelqu'un qu'il est un peu lent à la détente, c'est rarement une qualité. La lenteur en Occident a longtemps été un défaut. Au Moyen-Âge, la paresse, la lenteur sont combattues par l'Église. La paresse, c'est l'un des 7 péchés capitaux.
Absolument. Et c'est un petit peu, ça me permet d'aller à la fois dans le sens de ce qui a été dit et de donner une petite profondeur historique, parce que tout ça, cette question, ces normes sociales, rythmiques, ont une généalogie historique. Et moi, je la rencontre, on va dire, à la fin du Moyen-Âge. Il se passe quelque chose, c'est les débuts de ce qu'on appelle les temps modernes. Et ces temps modernes sont marqués par la rencontre de deux discours. Un discours religieux, vous en avez parlé, avec cet univers chrétien qui est en train d'encadrer la vie sociale par ses péchés capitaux. L'un d'entre eux est la paresse.
C'est la mère de tous les vices.
Mais la paresse n'a rien à voir avec la lenteur. Sauf que des théologiens sont en train, pour essayer d'illustrer cette paresse, eh bien, de donner des exemples dans la vie réelle et dans la vie quotidienne. Bien, quelqu'un qui va lentement est un paresseux. Voilà des indices qui sont donnés. Donc là, paresse, lenteur sont associés. Et puis, il y a, à cette fin du Moyen-Âge, la naissance de quelque chose d'autre qui va vraiment marquer notre monde jusqu'à aujourd'hui. C'est les débuts du capitalisme marchand. Et nous sommes aujourd'hui encore dans un système capitaliste. Et qui fait là de la promptitude, de la vitesse, eh bien, un élément clé pour réussir ses affaires. Donc, d'un côté, on valorise la promptitude, de l'autre, on dénonce la lenteur, ce qui fait que on est en train de construire la figure sociale de l'homme moderne comme un homme efficace qui ne gaspille pas son temps, parce que le temps nous est donné par Dieu. Il ne le gaspille pas.
Laurent Vidal, remontons à la conquête du monde par les Européens au 15e, 16e siècle, avec la figure de l'homme lent qui commence donc à prendre forme. Les Européens vont décrire les populations autochtones américaines comme des personnes paresseuses, indolentes, ce qui justifiera leur domination. La lenteur qui est à partir de ce moment-là encore plus associée à un ensemble de défauts. Le lent et paresseux, donc, improductif, insouciant.
Exactement. C'est la première fois, certes, vous l'avez dit, au Moyen-Âge, en Europe, ce sont les moines que l'on qualifie. On dit qu'ils cèdent aux démons de midi, la fameuse sieste qui s'étire.
On parle d'ascédie.
En parlant d'ascédie. Mais au moment de la découverte, entre guillemets, du Nouveau Monde par les Européens, eh bien là, il y a un premier groupe social qui va être qualifié de lent, de paresseux, d'indolent. Vous l'avez dit, ce sont ce que l'on appelle les Indiens. D'ailleurs, par abus de langage. Et effectivement, les Européens expliquent qu'ils ne sont absolument pas adaptés au rythme du travail, au monde du travail. Leur obsession à eux, c'est la mise au travail du monde. Et ces gens-là, on les représente allongés dans des hamacs. En plus, on ajoute l'élément de la concupiscence, parce que très souvent, dans les gravures, on représente le hamac avec deux personnes, un homme, une femme. Donc, on ajoute. Et on commence petit à petit, par cette ronde des mots, eh bien, à encercler des groupes en disant ces groupes sont inadaptés à la vie moderne. On commence par les Indiens et puis il y en aura d'autres.
Et on verra si les lents sont enfin bien vus en 2025. On verra ça tout à l'heure. Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour Ali.
Qui n'est pas réputé pour sa lenteur, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès. Au menu de votre chronique, les Français mode d'emploi.
Eh bien, sachez que nous sommes dans la semaine du son, aujourd'hui organisée par l'UNESCO. Et donc, on va s'interroger sur les sons qui agacent le plus les Françaises et les Français, les fameuses nuisances sonores. Est-ce que ces sons-là sont toujours les mêmes au fil du temps et au fil des années? On va mener l'enquête tout à l'heure.
France Inter.
Et voilà, on a les droits. Il a marché à fond, le gars.
Grand bien vous fasse.
Et ma femme?
Ouais.
À la boulette.
Il a oublié ma femme.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Ah oui, j'ai fait la boulette.
Ali Rebbi.
Lenteur, maladresse, nonchalance, comment faire de nos petits défauts une force? Christophe André, je rappelle que vous êtes psychiatre. Nous évoquons donc ce matin nos petits défauts. C'est quoi un défaut du point de vue du psychiatre? Et quelle est la frontière avec le pathologique?
Oui. Alors c'est vrai que quand on est soignant, on essaie d'éviter le jugement. On est plutôt dans l'observation. Effectivement, certains défauts peuvent être tout simplement des symptômes. Hein. Ce que le grand public perçoit comme un défaut peut être le symptôme d'une maladie. On sait que par exemple dans la dépression, il y a ce qu'on appelle la démotivation, la perte d'élan vital. Ça peut ressembler de l'extérieur à une espèce de laisser-aller, de paresse. On sait que dans l'anxiété, il y a des évitement. Les gens anxieux ont peur de certaines situations, les évitent. Donc, ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas de la démotivation, c'est simplement que leur angoisse est trop forte. La lenteur. Parfois, certains patients qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs sont très lents parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, une peur obsédante, angoissante. Donc, tout ça, pour nous, un défaut, on commence par regarder quand même s'il n'y a pas derrière une souffrance, puisqu'au fond, un défaut qui relèverait de la pathologie, c'est un défaut qui entraîne de la souffrance, soit pour la personne qui est mal avec ce défaut, qui en est complexé, qui se focalise sur lui, qui le perçoit comme un déficit ou une insuffisance, soit pour l'entourage qui s'en irrite, s'en attriste, à tort ou à raison. Hein. Il y a des défauts, effectivement, qui attirent l'attention sur le fait que la personne va être inadaptée à certains environnements.
Sylvie Chocron, neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS.
Oui, moi je voulais rebondir sur cet aspect justement pathologique ou pas, puisque Héloïse l'avait évoqué. Et on peut peut-être commencer par parler de comment on acquiert la rapidité, comment le cerveau fait pour être rapide dans une tâche. La rapidité, elle est liée à l'automatisation. C'est-à-dire que plus vous avez une expérience grande dans un domaine, plus vous allez automatiser des processus. Et tout ce qui est automatisé devient rapide parce que ça ne nécessite plus d'attention. Et donc, du coup, c'est fait de manière totalement automatique et ça n'a pas de coût. La question qu'on doit se poser quand quelqu'un est lent, c'est de savoir s'il est lent dans une tâche ou s'il est de nature à faire attention à tout ce qu'il fait et du coup à faire toutes ses tâches en pleine conscience. C'est pas du tout la même chose. Et quand un enfant ou un adulte est lent dans une tâche, il faut se poser effectivement la question de est-ce qu'il a eu du mal à automatiser ce processus-là et pourquoi ça aurait été dur de l'automatiser. Par ailleurs, dans toutes les lésions cérébrales, quelle que soit l'origine, que vous tombiez, que vous ayez un coup sur la tête, un AVC, une méningite, peu importe, la lenteur, ça va être un signe commun à tous ces cadres-là, parce que ce que le cerveau perd en premier, quand il a un souci, c'est la rapidité. Et maintenant, dernière chose, puisque Héloïse l'évoquait, c'est vrai que moi j'ai grandi dans un monde où on disait le temps c'est de l'argent. Aujourd'hui, on parle de l'économie de l'attention. C'est-à-dire que vraiment, tout autour de nous sollicite notre attention et il y a un enjeu économique autour de ça. C'est vrai que dans ce monde-là, dès qu'une personne est un petit peu moins rapide, réagit moins vite à toutes les stimulations, est un petit peu moins multitâche, on va avoir l'impression que c'est une pathologie, comme le disait Héloïse, de l'attention. Donc, il n'y a jamais eu autant de diagnostics. Pareil pour les gestes, c'est vrai que dès qu'un enfant va être maladroit ou ne porte pas attention aux gestes de la vie de tous les jours et n'apprend pas à faire ses lacets, boutonner sa chemise, etc., il va y avoir une suspicion de dyspraxie. Et donc, nous, neuropsychologues, on est très vigilants là-dessus parce qu'il ne faut pas confondre un enfant qui n'a pas mis d'attention pour apprendre certains processus et un enfant qui, véritablement, même avec attention, ne peut pas automatiser ses processus et ne peut pas les apprendre.
Héloïse Lhérité, directrice de sciences humaines.
Ce qu'il y a, c'est qu'on est tout de même pris aujourd'hui dans un processus d'accélération. C'est ce que dit Laurent Vidal, c'est ce que dit aussi le sociologue Armut Rosa. C'est notre modèle de développement, que ce soit au niveau individuel, comme au niveau collectif, social, politique. La difficulté, c'est que quand on passe sa vie à vouloir accélérer, on finit par rater les virages et à se prendre des murs. Et c'est vrai au niveau des individus qui peuvent faire des mauvais choix parce qu'ils font des choix de manière automatique, comme le dit bien Sylvie Chocron, quand on va trop vite, on fonctionne en mode automatique et non pas en mode créatif. Et on peut faire de mauvais choix, par exemple un mauvais choix professionnel, un mauvais choix de conjoint, un mauvais choix de vie. Et c'est vrai aussi au niveau collectif, où là, ce qu'on risque de se prendre, c'est le mur climatique, comme le dit aussi Laurent Vidal.
Laurent Vidal, historien.
Oui, c'est important ça. Moi, mon analyse, elle n'est pas à l'échelle individuelle, c'est à l'échelle collective ou à l'échelle sociale. Hein. Mais c'est important à la fois, je pense, cette question de l'automatisation, c'est tout un processus d'apprentissage, par exemple, lorsqu'on commence à introduire des machines-outils hein, dans les entreprises, apprentissage de gestes nouveaux pour les ouvriers, ça pose tellement de problèmes qu'il y a même au Collège de France un psychologue qui fait un cours sur la maladie de l'énergie en disant que les ouvriers n'y arrivent pas, ils ont un problème d'attention, etc. Mais aujourd'hui, je crois qu'effectivement, le grand problème, c'est que nos sociétés se heurtent à un mur qui est le mur de l'instantanéité. Et alors, je dirais, moi qui suis enseignant à l'université, que ce soit en France ou au Brésil d'ailleurs, où je vis souvent, je me rends compte qu'il y a des générations nouvelles qui sont nées. Pour elles, l'instantanéité fait partie de leur univers. Et là-dedans, la question de la lenteur, de la rapidité, se pose de manière totalement différente. J'avoue que c'est quelque chose d'assez troublant. Jamais je n'avais senti, ça fait 25 ans, 30 ans que j'enseigne, jamais j'avais senti cette rupture, ce mur de l'instantanéité qui aujourd'hui pose problème. Ce sont des gens qui ont un atout par rapport à notre génération, c'est que notre génération, dans la suite un petit peu de ce qui s'est fait depuis des générations, s'était construite autour du travail. Le travail, il faut avoir un travail, et autour du travail, on construit sa vie sociale, familiale, etc. Cette jeune génération ne fait plus du travail l'élément central. C'est un point important, je pense. Mais il y a d'autres éléments inquiétants.
Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que la question de la rapidité, la question de l'instantanéité, en fait, elle est à l'origine de deux malaises qu'on a commencé à un peu évoquer ici, mais c'est à l'origine de deux malaises dans la société. Le premier, en effet, c'est le travail. On a longtemps pensé, il y a 30 ans, il y a 40 ans, que le numérique, que la robotique allait faire diminuer, en effet, le niveau de pénibilité exprimé chez une partie importante de salariés, notamment chez les ouvriers, notamment chez ceux qu'on appelle les salariés du back-office de la société. Force est de constater que quand on mène des enquêtes aujourd'hui auprès des salariés, on se rend compte que la pénibilité, le sentiment de pénibilité n'a absolument pas diminué, ne s'est absolument pas délité, et on sait que c'est en grande partie lié à l'accélération des cadences, à l'accélération des rythmes, justement liés au numérique et à la robotique. Donc, premier élément, le malaise au travail lié en effet à l'instantanéité. Le deuxième malaise, c'est le malaise des habitants des villes. On sait qu'aujourd'hui, une partie importante de la population des villes, justement, rejette ce modèle rapidité-instantanéité. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'une partie des grandes villes, on sait qu'une partie des grandes métropoles, entre guillemets, de plus en plus sont dessinées, sont créées pour les biens portants. En gros, pour celles et ceux qui sont capables d'aller vite, pour celles et ceux qui sont capables d'adopter des mobilités douces, mais malgré tout qui vont vite, le vélo en fait partie évidemment, et donc ça exclut les gens qui justement ne sont pas considérés comme des biens portants, les enfants d'une part, et les personnes à mobilité réduite, les personnes les plus vulnérables, les seniors, etc. etc. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est à l'origine de deux malaises qu'on a bien identifiés, et ça ruisselle en effet dans la société, dans le travail d'une part, et dans la façon dont on pense la ville d'autre part.
Sylvie Choucron ?
Oui, moi je souscris tout à fait à ce que tous les deux vous venez de dire. Je voudrais rajouter quelque chose qui est que effectivement les outils technologiques qui apparaissent, y compris l'intelligence artificielle, y compris ChatGPT, etc., nous mettent face à une rapidité d'exécution qui n'est pas le temps humain, le temps du raisonnement humain, le temps de la réalisation d'une tâche. Et du coup, au lieu de prendre ces outils pour pouvoir compléter les capacités de l'être humain, en fait, les humains ont l'impression qu'ils devraient devenir aussi rapides que les machines. Et donc, à cette époque où, évidemment, ChatGPT, en 2 secondes, vous sort un texte où vous, il aurait fallu que vous réfléchissiez des heures, vous vous sentez trop lent, vous vous sentez inefficace, alors qu'en réalité, le processus n'est absolument pas le même et on ne devrait pas comparer ces processus-là. Et
Christophe André, on se sent trop lent, trop efficace, avec une estime de soi qui est un peu affectée quand on pointe ce genre de défaut.
Oui, mais une fois de plus, c'est vraiment... Les défauts, c'est un jugement social. La semaine dernière, on faisait ensemble, j'étais là aussi, une émission sur la répartie.
Oui.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la répartie, il y a des gens qui n'en ont pas. Et parmi les gens qui n'ont pas de répartie, dont je fais partie, mais il y a beaucoup d'autres personnes aussi, un certain nombre souffrent. Et c'est une blessure pour l'estime de soi, parce qu'ils ont le sentiment qu'avoir de la répartie, c'est quelque chose qui est un marqueur d'intelligence, de présence, de statut social, et que ne pas en avoir serait un défaut. À mes yeux, ne pas avoir de répartie, c'est pas un défaut, c'est une autre façon d'être présent dans les échanges sociaux. Et la chronique que j'avais faite où je disais, ben non, là, le fait de ne pas avoir de répartie, il y a des tas de gens intelligents, brillants, de Rousseau, Montesquieu, etc., Spinoza, qui n'avaient aucune répartie. C'était quand même des gens passionnants, intelligents, tout ce qu'on voudra. Et j'ai été frappé par l'avalanche de messages sur les réseaux sociaux d'internautes me disant, c'est trop cool, on est décomplexés, ça nous rassure. Mais au fond, il prenait pour un défaut ce qui est juste un trait de personnalité. Et effectivement, c'est toutes les blessures que nos défauts supposés, une fois de plus, apportent à notre estime de nous-mêmes, eh bien, il faut vraiment les interroger dans le sens de l'acceptation. Pourquoi je serais obligé d'être rapide ? Pourquoi je serais obligé d'avoir de la répartie ? Pourquoi je serais obligé d'être ordonné ? Etc., etc. Donc, bien sûr que si ça nous gêne, nous, si on a l'impression qu'on voudrait progresser, on peut y aller, on peut travailler sur ça, mais sans se persécuter. C'est ce qu'on appelle en psychothérapie le travail d'acceptation. D'abord, je reconnais ce qui est, je me demande jusqu'où c'est un problème, jusqu'où c'est grave, et ensuite, si c'est important pour moi, je le travaille tranquillement.
Héloïse Lhérété ?
Oui, bien sûr, d'accord avec Christophe André. Je voudrais, à ce stade de l'émission, quand même apporter une petite nuance. Il faut veiller à ne pas dire que les lents seraient géniaux et les rapides, par exemple, seraient inadaptés ou auraient tort. Non, c'est plutôt bien de savoir aussi faire les choses vite. Mais le fonctionnement optimal de l'être humain, en fait, se situe dans une oscillation entre les deux. C'est-à-dire, il faut savoir accélérer, mais il faut aussi savoir décélérer. Et en fait, en associant l'instantanéité à la performance, on fait une erreur, parce que la performance, elle se situe justement dans une oscillation entre ordre et désordre, entre lenteur et rapidité.
Dans une forme d'agilité.
Voilà, et c'est cette agilité, au fond, comme un pendule, si vous voulez, un pendule, il oscille, c'est le moteur, il vibre, et les humains aussi, ils doivent apprendre à jouer les deux jeux.
Laurent Vidal.
Oui, nous sommes porteurs, en fait, tous tous de plusieurs rythmes. Et en fonction, que ce soit de la journée ou des moments dans la vie, on passe d'un rythme à l'autre. La difficulté, c'est qu'il y a des injonctions sociales. Et en fait, ce sont les injonctions sociales à être rapide, à être efficace, à être, que l'on rencontre dans diverses situations de la vie, que ce soit dans la vie professionnelle, que ça me mette dans la vie familiale, enfin, etc. On reçoit ces injonctions. Et là, effectivement, ça crée des frottements. Moi, ce qui m'importe, c'est pas tellement de savoir aussi qui est lent, parce que qui est lent, ça renvoie à celui qui a décrété qu'il était lent, pas à celui qui est soi-disant lent. Mais c'est la question de... aujourd'hui, on le voit bien, de la lenteur dans nos sociétés. Parce que, et là, je voudrais renvoyer, je change un peu de dimension, mais j'intègre la dimension du GIEC, qui nous dit qu'on n'arrivera pas si on continue à ce même rythme de développement, eh bien, c'est pas que les individus et les sociétés qui vont dans le mur, c'est la planète qui va dans le mur. Donc là, cette fois, la question de la lenteur est posée, je dirais, par un groupe d'experts qui est reconnu, qui est prix Nobel de la paix, etc. Et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire ce changement de rythme dans nos vies collectives.
Laurent Vidal, les lents sont-ils bien vus en 2025 ? Peut-être pas. Vous prenez appui sur une photo prise il y a quelques années par un juriste d'entreprise. La photographie, le cliché d'un éboueur endormi dans les rues de Paris et publié sur les réseaux sociaux avec ce commentaire « Voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens à payer les agents de propreté à roupiller. » Un éboueur qui a été licencié, puis réintégré. En fait, qu'est-ce qu'il faisait cet éboueur, Laurent Vidal ?
Il faisait une pause, sauf qu'effectivement, son lieu de pause
entre
c'était la
tournées.
Rue. Entre
voilà.
deux tournées, il faisait une pause entre deux tournées.
Il ne pouvait pas rentrer chez lui.
Il ne peut pas rentrer chez lui, mais on voit bien ici, dans le texte de cette personne qui a posé ça sur Instagram, tout l'imaginaire social autour duquel nos sociétés se sont construites.
Jérémy Pelletier ?
Alors, oui, en effet, il y a des injonctions sociales, mais c'est aussi beaucoup lié au mode de vie des individus, aux nouvelles attitudes aussi des individus. Le cas, effectivement, et l'exemple que vous citez est très intéressant, parce qu'à mon avis, il est très représentatif de la façon aussi dont les individus aujourd'hui, qui peuvent par ailleurs être lents dans leur vie, mais qui peuvent se comporter de façon assez exécrable dans certains moments de leur vie ou dans certains moments de leur journée. Je donne un exemple. Un individu peut très bien être lent et être touché par la lenteur dans sa vie quotidienne, mais il va trouver absolument insupportable d'attendre plus de 10 minutes dans une salle d'attente. Il va trouver absolument insupportable de ne pas être livré en temps en heure lorsqu'il va commander quelque chose. Il peut trouver absolument insupportable de se retrouver derrière un camion de poubelle lorsqu'il est en voiture pour se rendre à un rendez-vous. Donc, en effet, injonction sociale qui fait dire que la rapidité est une vertu absolue, mais la façon dont on se comporte, la façon dont on est devenu, et ça on l'a mesuré dans pas mal d'enquêtes, plus impatient qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans.
Intolérant à la frustration.
Intolérant à la frustration, intolérant justement au fait d'attendre, au fait de patienter. Et justement, l'exemple de la salle d'attente, à mon avis, est très intéressant. À mon avis, est aussi à intégrer dans le débat.
Tout à fait. On appelait ça, en même temps, à la fin du 18e et au 19e siècle, on appelait ce phénomène la physiognomonie. C'est-à-dire comment on décrit les qualités d'une personne à partir de son apparence. Ouais. Et notre président actuel l'a dit dans un discours qu'il fait dans une gare. Quand je suis dans une gare, quand on voit qu'il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ne sont rien. Quel fabuleux, ça. C'est vraiment l'exemple le plus fabuleux qui montre le poids de cet imaginaire. À quoi voit-il qu'il y a des gens qui ont réussi et à quoi voit-il qu'il y a des gens qui ne sont rien ?
Héloïse Lhérété.
Oui, nous avons tous nos traits de caractère. Il est certain que si on est plutôt rêveur, maladroit, il vaut mieux par exemple ne pas exercer la chirurgie. On n'attendra pas d'un chirurgien un lambin ou un empoté. Mais par contre, on peut être dans le domaine des arts, de la créativité, où souvent on va exceller. Et je raconte dans l'éditorial de Sciences Humaines une conversation que j'ai eue avec le directeur d'un quotidien qui se plaignait de ne plus avoir de grandes plumes dans son journal. J'étais pas d'accord avec lui parce que lectrice régulière de son journal, j'avais repéré une signature, vraiment quelqu'un qui me touchait au cœur. Et donc je lui dis, mais je suis pas d'accord. Je lui cite le nom de ce journaliste que je ne connaissais pas du tout personnellement. Il me répond, ah mais lui, il a un autre problème. il est lent. Et en fait, c'est pas un hasard, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire que s'il avait un style qui me touchait, et qui touchait, je pense, beaucoup de lecteurs, c'est précisément parce qu'il prenait le temps d'observer les circonstances, d'observer l'accessoire, d'observer les expressions sur les visages. Et tout ça participait à un grand style. Or, qu'est-ce qui fait la valeur aujourd'hui d'une information, d'un journal ? Est-ce que c'est des dépêches bétonnées comme ChatGPT peut très bien en faire encore plus vite que nous ? Ou bien est-ce que c'est justement cette attention aux détails ?
Sylvie Chocron.
Oui, alors, moi je voulais revenir au cerveau et juste rappeler qu'un cerveau efficace, c'est un cerveau qui sait s'adapter à chaque situation et nous permettre d'être vraiment le plus performant dans chaque contexte. Et donc, on a une fonction qui s'appelle la flexibilité. Et donc, on doit être capable de pouvoir décider à un moment donné ou de simplement, même si c'est pas conscient, de pouvoir s'adapter aux contraintes du moment. Et on doit être capable d'être soit lent, soit rapide, soit rêveur, soit tout à fait concentré. Et c'est ça qui fait la richesse de notre fonctionnement mental. Quand on parlait de l'intolérance à l'attente, du fait qu'on est devenu totalement impatient et que, par exemple, on est aussi intolérant à être monotâche. Les gens n'arrivent plus à regarder un film sans faire autre chose à côté. Et donc, quand on commence à utiliser le terme d'intolérance pour un type de fonction, ça veut dire qu'on est en train de perdre une part de cette flexibilité et que notre répertoire de processus n'est plus aussi grand. Et là, il faut qu'on se pose des questions.
Christophe André et Héloïse Lérété évoquaient ce journaliste lent qui faisait preuve d'un très grand style. De quelle façon la lenteur, une certaine forme de paresse, peut-elle être un incubateur de la créativité ?
Ah ben ça, c'est effectivement la paresse, là encore. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Si c'est effectivement le temps de récupérer, comme l'éboueur, le monsieur qui faisait une petite pause et qui a été pointé du doigt sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est pas de la paresse, c'est juste du repos. Le fait de lâcher prise de temps en temps dans nos vies, de se permettre de ne rien faire, de savourer, de se reposer, de s'adonner au plaisir simple d'exister, on sait très bien ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau. À ce moment-là, notre cerveau, enfin Sylvie Chocron en reparlera sans doute bien mieux que moi, mais notre cerveau se met à fonctionner sur ce qu'on appelle le mode par défaut, active un certain nombre de zones qui s'appelle le réseau par défaut et dont on sait qu'il est associé à la créativité, à la capacité de prendre du recul sur sa vie, de faire émerger des nouvelles visions, des nouvelles solutions. Donc, si la paresse nous permet, enfin, ce qui est jugé comme étant de la paresse, nous permet ce genre de capacité, ben, c'est un défaut, à ce moment-là, formidable. Ça, c'est clair.
Sylvie Chocron.
Oui, oui, je rajouterais juste à ce que vient de dire Christophe que, au début, on a appelé ce mode par défaut parce qu'on pensait que quand on s'ennuyait, quand on ne faisait rien, bah, le cerveau ne faisait rien. Et on s'est rendu compte que c'est complètement faux. C'est dans ces moments où on ne fait rien, où on s'ennuie, où on rêve en étant éveillé, où on paresse, etc. Bah, c'est quand on ne demande rien à notre cerveau que notre cerveau peut tranquillement travailler et faire le plus de choses. Et c'est là qu'il va mettre en relation des informations. C'est là qu'il va nous permettre d'être créatifs, de trouver une solution à un problème, de se projeter dans l'avenir. Donc ces moments d'ennui, de paresse, d'arrêt, de la contrainte, sont des moments absolument cruciaux.
Il est essentiel de rêvasser sans but précis.
Exactement, parce que c'est pendant ces moments où on ne demande rien à notre cerveau, que notre cerveau va consolider tout ce qu'on a appris et qu'il va pouvoir être efficace.
Alors là, je vais lui demander de ne pas rêvasser, parce que c'est l'heure de sa chronique, l'heure des Français mode d'emploi de Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès.
Regardez Salomon, regarde.
Quand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est un Français.
Ali Rébéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde ? Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors Jérémy Pelletier, vous souhaitez ce matin nous parler des oreilles des Français à l'occasion de la Semaine du Son organisée chaque année par l'UNESCO.
Oui, est-ce que vous aimez ce doux bruit, mon cher Ali ? C'est agréable, hein ?
Ouais,
et celui-ci ?
Ah non.
Et celui-ci ?
Ah, c'est pire.
C'est le pire ? Eh ben on va en parler. Sachez, Ali, que ces trois sons font partie des bruits les plus gênants pour les oreilles de nos chers Français. Il y a une étude OpinionWay qui a été publiée il y a quelques jours, dans laquelle on apprend que 38% des Français disent que le bruit des motos et des deux roues, eh ben c'est le bruit qui les dérange le plus dans leur vie quotidienne. 30% des Français disent que ce sont les bruits de la circulation, d'une façon générale, et 30% disent que ce sont les bruits de chantier et les bruits qu'on peut appeler les bruits de travaux publics. Bon, rien de très surprenant en vérité jusqu'alors. On sait depuis plusieurs années maintenant que beaucoup de nos compatriotes en fait ne supportent plus les nuisances sonores des villes. C'est même devenu en fait l'un des principaux sujets de crispation des urbains quand on les interroge sur leur cadre de vie. Et on sait par ailleurs, étude après étude, qu'il y a un impact très important aujourd'hui des nuisances sonores sur la santé de nos concitoyens. Dans cette étude OpinionWay que je citais, 72% des Français déclarent d'ailleurs que les bruits et les sons peuvent être sources de stress pour eux. Et on sait aussi, et c'est un élément important, que ces nuisances sonores, elles sont très inégalement réparties entre les classes sociales. Les classes populaires sont beaucoup plus impactées, sont beaucoup plus confrontées, en effet, aux nuisances des villes que les classes les plus favorisées. Donc, jusqu'alors, pas de grande surprise en fait dans ce classement et dans ces trois types de sons. La chose la plus surprenante, c'est que malgré les bruits de la... malgré tout, les bruits de la ville, en fait, ils sont pas en tête des bruits que détestent le plus les Français, et alors, ça fait pas partie des bruits qui les insupportent le plus dans leur vie de tous les jours. C'est lesquels, à votre avis, les bruits que détestent le plus les Français dans leur vie de tous les jours?
Sylvie Chocron.
Maintenant, je suis en train de réfléchir justement parce que moi, c'est vraiment les bruits, tout ce que vous avez cité là. Donc, il y a peut-être les bruits de mastication, les choses.
Oui, je sais Laurent pas, Vidal. Un train, un avion qui décolle.
Donc là, on est sur les bruits de mobilité.
Non.
Moi, c'est le marteau-piqueur, à côté de chez moi.
Eh bien, sachez que pour près de la moitié des Français, les bruits les plus pénibles et les plus dérangeants, eh bien, ce sont les discussions téléphoniques d'autres personnes dans les lieux publics et les transports en commun.
Surtout si c'est sur haut-parleur.
Surtout si c'est sur haut-parleur, mais le haut-parleur n'est pas forcément le critère le plus important.
Pour moi, à titre personnel.
Et l'objet, c'est le téléphone. 47% des Français, en effet, citent cela en premier. Le téléphone portable, c'est donc devenu, en fait, dans notre époque, encore plus agaçant, justement, que le marteau-piqueur.
Alors c'est assez facile à comprendre, j'imagine. C'est assez pénible, hein, les gens qui parlent au téléphone, notamment dans les transports. Et sur haut-parleur.
Alors évidemment, Ali, on comprend aisément le côté insupportable des gens qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait passer leur coup de fil sur les plateformes. Quand vous prenez le train, par exemple, c'est assez usant aussi les gens qui hurlent au téléphone dans une salle d'attente d'un médecin, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Sauf qu'à mon avis, cet agacement lié au téléphone, eh bien en fait, il cache aussi, selon moi, un autre agacement plus pernicieux et à mon sens plus problématique, l'agacement du bruit de l'autre. Est-ce que vous savez par exemple que les gens, quand ils prennent le TGV, demandent de plus en plus de places isolées et rejettent de plus en plus les carrés familiaux, synonymes de bruit, d'échanges potentiels et d'animation liés souvent à la présence d'enfants? Est-ce que vous savez qu'il existe aujourd'hui des plages sans enfants qui interdisent désormais la présence d'enfants de moins de 12 ans? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une multiplication par deux dans le monde des hôtels et des restaurants qui affichent une petite pancarte « Adult only ». Et savez-vous que les mairies ne cessent d'être appelées par des voisins de moins en moins tolérants avec le bruit de la fête, des bars et des terrasses depuis le Covid et les confinements? Donc évidemment, la question des nuisances sonores et du bruit des rodéos urbains, c'est un vrai sujet qu'il faut traiter, notamment dans les grandes villes et les grandes métropoles. Mais quand cette question, elle devient un prétexte pour faire disparaître le bruit des autres, le bruit de la vie et le bruit de la fête, honnêtement, ça donne envie de crier et de faire du bruit pour réveiller une société un peu rabougrie par certains temps.
Et mon cher Jérémy Pelletier, très bientôt, vous allez connaître les joies des carrés familiaux avec enfants et des pleurs la nuit.
Sentez que cette chronique est inspirée.
Voilà, ça arrive dans quelques semaines, absolument, mon cher Jérémy. C'est pour ça que vous allez nous quitter pendant tout le mois de février.
Absolument.
Pour cette nouvelle paternité.
Je vous écouterai.
J'espère bien. Hier, nous avions une émission consacrée aux pleurs des bébés. Je vous la recommande vivement, mon cher Jérémy Pelletier. Vous vouliez réagir,
oui,
Laurent
Vidal. Je voulais vous inviter, mais là, ça sera difficile. Il faudra laisser passer le mois de février, mais vous invitez au Brésil. C'est intéressant de mettre en contrepoint notre lecture avec la lecture d'une autre société. Et là, effectivement, les bruits de l'autre, c'est totalement différent. Là, on est dans une société où ce n'est pas gênant, finalement. Moi qui ai beaucoup voyagé en bus, surtout en bus, le bus à 3h du matin où les gens mangent, lumière ouverte, téléphone, etc., ça fait partie, je dirais, des habitudes. C'est intéressant de mettre en rapport notre lecture du monde avec la lecture d'autres personnes.
Notez, vous êtes invité au Brésil.
Absolument, tout à fait. Avec grand plaisir, j'irai
tous les,
en vélo.
Tous les épisodes des Français Mode d'Emploi sont à podcaster sur l'appli Radio France.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebéi. Monsieur Malaquais, je dois avouer que j'apprécie à leur juste valeur vos capacités d'initiative.
Et je constate avec joie que vous êtes sensible à ma conception créative. Voilà, l'homme qui ne vend pas est un malade, un pervers aux yeux de celui qui achète. Non, c'est le contraire, c'est l'homme qui n'achète pas qui est un malade, qui est un pervers aux yeux de celui qui ment. Qui vend, pas qui ment, qui vend. C'est la même chose d'ailleurs. Enfin, c'est pas la même chose que le contraire, mais ça n'a aucun rapport. Le sollicité par la publicité choc, le cortex du non-consommateur est titillé par des scouts, voyez-vous ? Des scouts, je veux dire, le cortex par des scouts. Je n'achète pas, achèterai-je, je n'achète pas, achèterai-je, je n'achète pas, achèterai-je. Et qui se transforme peu à peu en une courbe zénitale, qui est la soif d'acheter. Oui, 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 j'achète.
Et voilà, monsieur le directeur.
Eh bien, monsieur Malaquais, je vous prie de garder pour vous vos conceptions médicales et publicitaires. Et à l'avenir, si vous vous mêlez de corriger à nouveau la moindre chose, ce sera la porte.
Extrait du Distrait, réalisé par Pierre Richard, avec Pierre Richard en 1970, avec ce personnage de Pierre Malaquais, l'incorrigible distrait, face à son patron, interprété par Bernard Blier. Beaucoup de questions, Héloïse Lérété, directrice aux sciences humaines, sur l'étourderie. Selon le Robert, un étourdi, c'est une personne qui agit sans réflexion, qui ne porte pas attention à ce qu'il fait, qui oublie, égare facilement, qui manque de mémoire et d'organisation, synonyme distrait, irréfléchi. Bref, les étourdis sont plus ou moins à l'ouest. Hein.
Oui, ils sont à l'ouest. On a fait un article, on s'est amusé, qu'on a intitulé « À l'ouest, gentil à l'ouest ». Voilà, mais on les aime bien quand même. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour eux, surtout que j'ai l'impression de faire un peu partie de leur tribu.
Ah, vous faites partie de la tribu.
mes enfants aussi, donc c'est assez terrible. C'est un reproche qui revient jusque dans leur bulletin. Mais
les étourdis, les têtes en l'air,
j'ai quand même
appeler,
envie de restaurer leur honneur.
Tête de linotte.
Voilà, parce que souvent les étourdis sont en fait des êtres qui pensent à beaucoup de choses. Mmh. Et c'est pas seulement des rêveurs, des distraits, des gens qui prennent la tangente pour s'évader du réel. Ça peut aussi être tout simplement des gens qui ont 1000 pensées à la minute. C'est le cas en tout cas de Gaston Lagaffe ou de Tournesol, qui sont quand même de géniaux inventeurs, qui cumulent les inventions même. Et dont la distraction est légendaire. Ceci dit, j'ajoute que c'est comme pour l'élan, Trifon Tournesol est totalement à l'ouest, mais quand il s'agit de se concentrer dans Tintin, mais quand il s'agit de se concentrer sur ses calculs ou de travailler sur la trajectoire de sa fusée lunaire, il parvient tout à fait à se concentrer.
L'étourderie qui peut être dangereuse dans certaines circonstances. Sylvie Chocron, sur l'étourderie, comment on explique l'étourderie, le fait d'être tête en l'air
L'étourderie, c'est pas vraiment un terme neuropsychologique ou neuroscientifique, c'est le terme dans la vie de tous les jours pour expliquer que parfois on peut perdre de vue son objectif, on peut avoir un trouble de ce que nous on appelle la mémoire prospective, c'est-à-dire qu'on s'était dit je vais faire ça, je dois faire ça, et puis ensuite on est pris par tout un tas de choses, ou peut-être qu'on n'est pas disponible tout simplement, parce que notre pensée, comme le disait Héloïse, est accaparée par autre chose, et du coup cet objectif qu'on avait, il va être perdu en route.
Et quelles sont les vertus de l'étourderie pour vous ?
Ah ben, pour moi, les vertus, c'est dur à dire, mais un fonctionnement dans lequel on peut perdre de vue quelque chose, c'est peut-être aussi un fonctionnement où on va être justement dans l'instant, où on va se laisser happer par la contemplation de quelque chose qui nous arrête du coup dans notre processus à plus long terme. Des gens qui vont s'autoriser à avoir une pensée qu'on appelle out of the box, c'est-à-dire qui vont sortir du cadre et qui du coup, au lieu de rester dans leur cadre fermé où ils doivent faire quelque chose, vont s'autoriser à avoir une pensée qui leur fait faire un petit détour, mais qui va peut-être les enrichir.
Laurent Vidal, historien.
Oui, non, mais je pense à l'étourderie, à Plume de Henri Michaud, qui est un très très beau texte où Plume dort dans son lit, un train traverse la maison et il comprend pas ce qui se passe. Il dit tiens, les fourmis auront mangé le mur de la maison. Et c'est absolument fabuleux. Mais je crois que de façon plus générale, cette question de l'étourderie renvoie à un autre rapport au monde et qui n'est pas celui de la rationalité en fait. Voilà.
Tiens, évoquons les bordéliques comme Jérémy Pelletier. La journaliste Guillemette Faure, dans Sciences Humaines, rappelle que la modernité occidentale a érigé l'ordre en vertu cardinale. En témoigne le best-seller mondial de la japonaise Marie Kondo, la magie du rangement. Quelles sont les vertus du désordre, Héloïse Lhérété ? Évidemment, la pathologie du désordre et de l'accumulation, c'est le syndrome de Diogène, tiré du nom du philosophe grec Diogène de Sinope, mort en 323 avant notre ère. Ça, c'est une pathologie bien connue des psychiatres comme Christophe André. Mais c'est quoi les vertus du désordre ?
Alors, je ne sais pas si le désordre a des vertus, mais Guillemette Faure cite une très jolie citation attribuée à Einstein qui disait « Si un bureau en désordre évoque un esprit brouillon, alors que dire d'un bureau vide ?»
Exactement. Christophe André, quelles sont les vertus du désordre ou d'être un peu bordélique dans sa vie ?
Alors, ouais, je voudrais parler des problèmes que ça pose.
Oui.
Dans ma famille, j'ai quelques personnes étourdies. Et alors, c'est quand même un souci, parce que les étourdis, au fond, c'est charmant, tout ce qu'on voudra, mais il y a des moments dans la vie, quand, par exemple, on quitte la maison, si on est étourdi, on laisse la maison ouverte, etc., etc., on oublie de fermer le gaz, tous ces trucs-là. Moi, quelque chose me frappe beaucoup par rapport aux étourdis, c'est l'aggravation totale qu'a apporté à ce trait de caractère, ce trait de personnalité, le téléphone portable. C'est-à-dire, quand je suis étourdi, mon ennemi numéro un, c'est pas mon cerveau, c'est pas l'ébullition d'idées en tous sens ou de pensées, c'est le portable qui interrompt régulièrement, coup de fil, messages, SMS, tous ces trucs-là, signaux des réseaux sociaux, mon flux de pensées. Et effectivement, moi, je suis frappé par le fait de voir comment les gens qui sont un petit peu étourdis, s'ils se laissent happer par leur portable, s'ils répondent en direct à leur portable, voient les conséquences défavorables de leur étourderie.
Mais Christophe, vous n'avez pas répondu sur les bordéliques, les vertus des bordéliques et du désordre. Est-ce que vous voyez en quelques secondes quelques vertus quand même au fait d'être bordélique ?
Je n'y crois pas. Je crois au méfait de l'obsession de l'ordre. De l'obsession de l'ordre. Je pense que le vrai défaut, c'est pas d'être bordélique, c'est d'être obsédé par le fait que tout soit à sa place, tout soit rangé, d'être en hyper-contrôle.
Jolie nuance.
Je pense que les bordéliques sont ni plus ni moins créatifs que les autres, à mon avis, mais on manque d'études pour montrer ça. Et par contre, que l'obsession de l'ordre, ça, c'est un frein à toute forme de spontanéité, de créativité.
Héloïse Lhérété.
Oui, en fait, il y a un vrai coup caché de la maniaquerie. Si vous passez 3 heures par jour à faire votre ménage, c'est autant de temps qui n'est pas passé à des choses plus importantes, vous occuper de votre voisine malade, innover, formuler des choses intéressantes, créer.
Jérémy Pelletier.
Je pense que le bordélique découvre beaucoup de choses et c'est pour ça que je pense qu'il y a une vertu démocratique, parce que oui, la démocratie, c'est le bordel, la démocratie, c'est l'inverse de l'ordre permanent et il nous faut un joyeux bordel pour découvrir et débattre.
Belle conclusion, Jérémy Pelletier. Merci Christophe André, on vous retrouve mardi dans l'émission. Je rappelle la saine lecture d'un parfait libre et heureux en poche chez Odile Jacob. Merci beaucoup Laurent Vidal. Les hommes lents résister à la modernité, c'est publié en poche chez Champ. Merci Sylvie Chocron. Dans le cerveau 2, c'est publié aux presses de la Cité. Merci Héloïse Lhérété. Le nouveau numéro de Sciences Humaines est disponible en kiosque. Il y a notamment un papier sur la mollesse, sur l'idiotie, c'est absolument formidable. Et on peut citer également le hors-série Origine de l'humanité.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.